Mémoire d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand, première partie, livre huitième. Manuscrit original en Amérique, lac du Canada, flotte de canaux indiens, ruines de la nature, vallée du tombeau, destinée des fleuves. 2. Cours de l'Ohio. 3. Fontaine de Jouvence, Muscogulge et Siminole. Notre camp. 4. 2. Floridiennes, ruines sur l'Ohio. 5. Quelles étaient les demoiselles Muscogulge? Arrestation du roi à Varennes. J'interromps mon voyage pour repasser en Europe. 6. Danger pour les États-Unis. 7. Retour en Europe. Naufrage. 1. Londres, d'avril à septembre 1822, revue en décembre 1846. Manuscrit original en Amérique, lac du Canada. Flotte de canaux indiens, ruines de la nature, vallée du tombeau, destinée des fleuves. La tribu de la petite fille à la perle partit. Mon guide, le Hollandais, refusa de m'accompagner au-delà de la cataracte. Je le payais et je m'associais avec des trafiquants qui partaient pour descendre l'Ohio. Je jetai avant de partir un coup d'œil sur les lacs du Canada. Rien n'est triste comme l'aspect de ces lacs. Les plaines de l'océan et de la Méditerranée ouvrent des chemins aux nations, et leurs bords sont ou furent habités par des peuples civilisés, nombreux et puissants. Les lacs du Canada ne présentent que la nudité de leurs eaux, laquelle va rejoindre une terre dévêtue, solitude qui sépare d'autres solitudes. Des rivages sans habitants regardent des mers sans vaisseaux. Vous descendez des flots déserts sur des grèves désertes. Le lac Erie a plus de 100 lieues de circonférence. Les nations riveraines furent exterminées par les Iroquois il y a 2 siècles. C'est une chose effrayante que de voir les Indiens s'aventurer dans des nacelles d'écorce sur ce lac renommé par ses tempêtes où fourmillaient autrefois des myriades de serpents. Ces Indiens suspendent leur manitou à la poupe des canaux et s'élance au milieu des tourbillons entre les vagues soulevées. Les vagues, de niveau avec l'orifice des canaux, semblent les aller engloutir. Les chiens des chasseurs, les pattes appuyées sur le bord, poussent des abois, tandis que leur maître, gardant un silence profond, frappe les flots en cadence avec leurs pagaies. Les canaux s'avancent à la file. À la proue du premier se tient debout un chef qui répète la diphtongue « Oa ! Oh ! » sur une note sourde et longue, « Ah !» sur un ton aigu et bref. Dans le dernier canot est un autre chef, debout encore, manœuvrant une rame en forme de gouvernail. Les autres guerriers sont assis sur leurs talons, au fond des cales. À travers le brouillard et les vents, on n'aperçoit que les plumes, dont la tête des Indiens est ornée, le cou tendu des dogues hurlants et les épaules des deux sachems, pilotes et augures. On dirait les dieux de ces lacs. Les fleuves du Canada sont sans histoire dans l'Ancien Monde. Autre est la destinée du Gange, de l'Euphrate, du Nil, du Danube et du Rhin. Quels changements n'ont-ils point vus sur leurs bords? Que de sueur et de sang les conquérants ont répandu pour traverser dans leurs cours ces ondes qu'un chevrier franchit d'un pas à leur source. 2. Londres, d'avril à septembre 1822, cours de l'Ohio. Partis des lacs du Canada, nous vîmes à Pittsburgh, au confluent du Kentucky et de l'Ohio. Là, le paysage déploie une pompe extraordinaire. Ce pays si magnifique s'appelle pourtant Kentucky, du nom de sa rivière, qui signifie « rivière de sang ». Il doit ce nom à sa beauté. pendant plus de 2 siècles, les nations du parti des Cherokees et du parti des nations iroquoises s'en disputèrent les chasses. Les générations européennes seront-elles plus vertueuses et plus libres sur ces bords que les générations américaines exterminées? Des esclaves ne laboureront-ils point la terre sous le fouet de leurs maîtres dans ces déserts de la primitive indépendance de l'homme? Des prisons et des gibets ne remplaceront-ils point la cabane ouverte et le haut tulipier où l'oiseau pense à couver? La richesse du sol ne fera-t-elle point naître de nouvelles guerres? Le Kentucky cessera-t-il d'être la terre de sang? Et les monuments des arts embelliront-ils mieux les bords de l'Ohio que les monuments de la nature? Le Wabak, la grande Cyprière, la rivière aux ailes ou Cumberland, le Cherokee ou Tennessee, les bancs jaunes passés, on arrive à une langue de terre, souvent noyée dans les grandes eaux. Là s'opère le confluent de l'Ohio et du Mississippi par les 36 degrés 51 minutes de latitude. Les deux fleuves, s'opposant une résistance égale, ralentissent leur cours. Ils dorment l'un auprès de l'autre sans se confondre pendant quelques milles dans le même chenal, comme deux grands peuples divisés d'origine, puis réunis pour ne plus former qu'une seule race. Comme deux illustres rivaux partageant la même couche après une bataille. Comme deux époux, mais de sang ennemi, qui d'abord ont peu de penchant à mêler dans le lit nuptial leur destinée. Et moi aussi, telle que les puissantes urnes des fleuves, j'ai répandu le petit cours de ma vie, tantôt d'un côté de la montagne, tantôt de l'autre, capricieux dans mes erreurs, jamais malfaisant, préférant les vallons pauvres aux riches plaines, m'arrêtant aux fleurs plutôt qu'au palais. Du reste, j'étais si charmée de mes courses que je ne pensais presque plus au pôle. Une compagnie de trafiquants venant de chez les Creeks dans les Florides me permit de la suivre. Nous nous acheminâmes vers les pays connus alors sous le nom général des Florides et où s'étendent aujourd'hui les États de l'Alabama, de la Géorgie, de la Caroline du Sud, du Tennessee. Nous suivions à peu près des sentiers que lie maintenant la grande route des Natchez à Nashville par Jackson et Florence et qui rentre en Virginie par Knoxville et Salem, pays dans ce temps peu fréquenté et dont cependant Bartram avait exploré les lacs et les sites. Les planteurs de la Géorgie et des Florides maritimes venaient jusque chez les diverses tribus des Creeks acheter des chevaux et des bestiaux demi-sauvages, multipliés à l'infini dans les savanes que percent ces puits au bord desquels j'ai fait reposer Atala et Chactas. Ils étendaient même leur course jusqu'à l'Ohio. Nous étions poussés par un vent frais. L'Ohio grossit de 100 rivières, tantôt allait se perdre dans les lacs qui s'ouvraient devant nous, tantôt dans les bois. Des îles s'élevaient au milieu des lacs. Nous fîmes voile vers une des plus grandes. Nous l'abordâmes à 8 heures du matin. Je traversai une prairie semée de jacobées à fleurs jaunes, d'alcées à panaches roses et d'obélaria dont les grès étaient pourpres. Une ruine indienne frappa mes regards. Le contraste de cette ruine et de la jeunesse de la nature, ce monument des hommes dans un désert, causait un grand saisissement. Quel peuple habita cette île? Son nom, sa race, le temps de son passage? Vivait-il alors que le monde au sein duquel il était caché existait, ignoré des 3 autres parties de la terre? Le silence de ce peuple est peut-être contemporain du bruit de quelques grandes nations tombées à leur tour dans le silence. Des anfractuosités sablonneuses, des ruines ou des tumulus sortaient des pavots à fleurs roses, pendant au bout d'un pédoncule incliné d'un vert pâle. La tige et la fleur ont un arôme qui reste attaché au doigt lorsqu'on touche la plante. Le parfum qui survit à cette fleur est une image du souvenir d'une vie passée dans la solitude. J'observais la nymphéa. Elle se préparait à cacher son lys blanc dans l'onde à la fin du jour. L'arbre triste, pour déclore le sien, n'attendait que la nuit. L'épouse se couche à l'heure où la courtisane se lève. Les notaires, pyramidales, hautes de 7 à 8 pieds, à feuilles oblongues dentelées d'un vert noir, a d'autres mœurs et une autre destinée. Sa fleur jaune commence à s'entr'ouvrir le soir, dans l'espace de temps que Vénus met à descendre sous l'horizon. elle continue de s'épanouir aux rayons des étoiles. L'aurore la trouve dans tout son éclat. Vers la moitié du matin, elle se fane, elle tombe à midi. Elle ne vit que quelques heures, mais elle dépêche ses heures sous un ciel serein, entre les souffles de Vénus et de l'aurore. Qu'importe alors la brièveté de la vie ? Un ruisseau s'enguirlandait de Dionée. Une multitude d'éphémères bourdonnait alentour. Il y avait aussi des oiseaux-mouches et des papillons qui, dans leurs plus brillants affiquets, joutaient d'éclat avec la diaprure du parterre. Au milieu de ces promenades et de ces études, j'étais souvent frappée de leur futilité. Quoi ? La révolution qui pesait déjà sur moi et me chassait dans les bois ne m'inspirait rien de plus grave. Quoi ? C'était pendant les heures du bouleversement de mon pays que je m'occupais de descriptions et de plantes, de papillons et de fleurs. L'individualité humaine sert à mesurer la petitesse des plus grands événements. Combien d'hommes sont indifférents à ces événements ? De combien d'autres seront-ils ignorés ? La population générale du globe est évaluée à 11 à 1 200 millions. Il meurt un homme par seconde. Ainsi, à chaque minute de notre existence, de nos sourires, de nos joies, 60 hommes expirent, 60 familles gémissent et pleurent. La vie est une peste permanente. Cette chaîne de deuil et de funérailles qui nous entortille ne se brise point. Elle s'allonge. Nous en formerons nous-mêmes un anneau. Et puis, magnifions l'importance de ces catastrophes dont les 3/4 et demi du monde n'entendront jamais parler. Haletons après une renommée qui ne volera pas à quelques lieues de notre tombe. Plongeons-nous dans l'océan d'une félicité dont chaque minute s'écoule entre 60 cercueils incessamment renouvelés. Nam nox nulla diem, neque noctem aurora sequota est, quoe non audierit mixtos vagitibus aegris, ploratus, mortis comites et funeris atri. Aucun jour n'a suivi la nuit, aucune nuit n'a été suivie de l'aurore, qui n'ait entendu des pleurs mêlés à des vagissements douloureux, compagnons de la mort et du noir trépas. 3. Londres, d'avril à septembre 1822. Fontaine de Jouvence, Muscogulge et Siminol, notre camp. Les sauvages de la Floride racontent qu'au milieu d'un lac est une île où vivent les plus belles femmes du monde. Les Muscogulges en ont tenté maintes fois la conquête, mais cet Éden fuit devant les canaux, naturelle image de ces chimères qui se retirent devant nos désirs. Cette contrée renfermait aussi une fontaine de jouvence. Qui voudrait revivre ? Peu s'en fallut que ces fables ne prissent à mes yeux une espèce de réalité. Au moment où nous nous y attendions le moins, nous vîmes sortir d'une baie une flottille de canots, les uns à la rame, les autres à la voile. Ils abordèrent notre île. Ils portaient 2 familles de criques, l'une Siminole, l'autre Muscogulge, parmi lesquelles se trouvaient les Cherokees et des bois brûlés. Je fus frappé de l'élégance de ces sauvages, qui ne ressemblaient en rien à ceux du Canada. Les Siminoles et les Muscogulges sont assez grands, et par un contraste extraordinaire, leurs mères, leurs épouses et leurs filles sont la plus petite race de femmes connue en Amérique. Les Indiennes, qui débarquèrent auprès de nous, issues d'un sang mêlé de Cherokee et de Castillan, avaient la taille élevée. 2 d'entre elles ressemblaient à des créoles de Saint-Domingue et de l'Île-de-France, mais jaunes et délicates comme des femmes du Gange. Ces 2 Floridiennes, cousines du côté paternel, m'ont servi de modèle, l'une pour Atala, l'autre pour Celuta. Elles surpassaient seulement les portraits que j'en ai faits par cette vérité de nature variable et fugitive, par cette physionomie de race et de climat que je n'ai pu rendre. Il y avait quelque chose d'indéfinissable dans ce visage ovale, dans ce teint ombré que l'on croyait voir à travers une fumée orangée et légère, dans ces cheveux si noirs et si doux, dans ces yeux si longs, à demi cachés sous le voile de 2 paupières satinées, qui s'entrouvaient avec lenteur, enfin dans la double séduction de l'Indienne et de l'Espagnole. La réunion à nos hôtes changea quelque peu nos allures. Nos agents de traite commencèrent à s'enquérir des chevaux. Il fut résolu que nous irions nous établir dans les environs des haras. La plaine de notre camp était couverte de taureaux, de vaches, de chevaux, de bisons, de buffles, de grues, de dindes, de pélicans. Ses oiseaux marbraient de blanc, de noir et de rose le fond vert de la savane. Beaucoup de passions agitaient nos trafiquants et nos chasseurs, non des passions de rang, d'éducation, de préjugés, mais des passions de la nature, pleines, entières, allant directement à leur but, ayant pour témoin un arbre tombé au fond d'une forêt inconnue, un vallon introuvable, un fleuve sans nom. Les rapports des Espagnols et des femmes criques faisaient le fond des aventures. Les bois brûlés jouaient le rôle principal dans ces romans. Une histoire était célèbre, celle d'un marchand d'eau-de-vie séduit et ruiné par une fille peinte, une courtisane. Cette histoire, mise en vers siminol sous le nom de Tabamica, se chantait au passage des bois. Enlevés à leur tour par les colons, les Indiennes mouraient bientôt délaissées à Pensacola. Leur malheur allait grossir les romanceros et se placer auprès des complaintes de Chimène. 4. Deux Floridiennes, ruines sur l'Ohio. C'est une mère charmante que la terre, nous sortons de son sein. Dans l'enfance, elle nous tient à ses mamelles gonflées de lait et de miel. Dans la jeunesse et l'âge mûr, elle nous prodigue ses eaux fraîches, ses moissons et ses fruits. Elle nous offre en tout lieu l'ombre, le bain, la table et le lit. À notre mort, elle nous rouvre ses entrailles, jette sur notre dépouille une couverture d'herbes et de fleurs, tandis qu'elle nous transforme secrètement dans sa propre substance, pour nous reproduire sous quelque forme gracieuse. Voilà ce que je me disais en m'éveillant lorsque mon premier regard rencontrait le ciel, dôme de ma couche. Les chasseurs étant partis pour les opérations de la journée, je restais avec les femmes et les enfants. Je ne quittais plus mes deux Sylvaines. L'une était fière et l'autre triste. Je n'entendais pas un mot de ce qu'elles me disaient. Elles ne me comprenaient pas. Mais j'allais chercher l'eau pour leur coupe, les sarments pour leur feu, les mousses pour leur lit. Elles portaient la jupe courte et les grosses manches tailladées à l'espagnol, le corset et le manteau indien. Leurs jambes nues étaient losangées de dentelles de bouleau. Elles nattaient leurs cheveux avec des bouquets ou des filaments de joncs. Elles se maillaient de chaînes et de colliers de verre. À leurs oreilles pendaient des graines empourprées. Elles avaient une jolie perruche qui parlait, oiseaux d'armides, elles la graffaient à leur épaule en guise d'émeraude ou la portaient chaperonnée sur la main comme les grandes dames du Xe siècle portaient l'épervier. Pour s'affermir le sein et les bras, elles se frottaient avec la poya ou souchet d'Amérique. Au Bengale, les bayadères mâchent le bétel et dans le Levant, les almées sucent le mastic de tchio. Les Floridiennes broyaient sous leurs dents d'un blanc azuré des larmes de liquidambar et des racines de libanis qui mêlaient la fragrance de l'angélique, du cédra et de la vanille. Elles vivaient dans une atmosphère de parfums émanés d'elles, comme des orangers et des fleurs dans les pures effluences de leurs feuilles et de leurs calices. Je m'amusais à mettre sur leur tête quelques parures. Elles se soumettaient, doucement effrayées. Magiciennes, elles croyaient que je leur faisais un charme. L'une d'elles, la fière, priait souvent. Elle me paraissait demi-chrétienne. L'autre chantait avec une voix de velours, poussant à la fin de chaque phrase musicale un cri qui troublait. Quelquefois, elle se parlait vivement. Je croyais démêler des accents de jalousie, mais la triste pleurait et le silence revenait. Faible que j'étais, je cherchais des exemples de faiblesse afin de m'encourager. Camoens n'avait-il pas aimé dans les Indes une esclave noire de barbarie? Et moi, ne pouvais-je pas en Amérique offrir des hommages à deux jeunes sultanes jonquilles? Camoens n'avait-il pas adressé des andechas ou des stances à Barbara Escrava? Ne lui avait-il pas dit « Aquella captiva, que me tem captivo, porque nella vivo, hanao quer que viva, e u nunca virosa, em suaves molos, que paramues olvos, fosse meis formosa, preti tao de amor, tao doce a figura, que a neve le giura, que trocara a cor, le da mansidao, que aussi so a compana, bem parece estramba, mas barbara nao. Cette captive qui me tient captif, parce que je vis en elle, n'épargne pas ma vie. Jamais rose, dans de suaves bouquets, ne fut à mes yeux plus charmante. séduisante d'amour, sa figure est si douce que la neige a envie de changer de couleur avec elle. Sa gaieté est accompagnée de réserve, c'est une étrangère, une barbare, non. On fit une partie de pêche. Le soleil approchait de son couchant. Sur le premier plan paraissaient des sassafras, des tulipiers, des catalpas et des chênes, dont les rameaux étalaient des écheveaux de mousse blanche. Derrière ce premier plan s'élevait le plus charmant des arbres, le papayer, qu'on eût pris pour un style d'argent ciselé, surmonté d'une urne corinthienne. Au troisième plan dominaient les baumiers, les magnolias et les liquidambars. Le soleil tomba derrière ce rideau. Un rayon, glissant à travers le dôme d'une futaie, scintillait comme une escarboucle enchâssée dans le feuillage sombre. La lumière divergeant entre les troncs et les branches projetait sur les gazons des colonnes croissantes et des arabesques mobiles. En bas, c'étaient des lilas, des azaléas, des lianes annelées aux gerbes gigantesques. En haut, des nuages, les uns fixes, promontoires ou vieilles tours, les autres flottants, fumés de rose ou cardés de soie. Par des transformations successives, on voyait dans ces nues s'ouvrir des gueules de four, s'amonceler des tas de braises, couler des rivières de lave. Tout était éclatant, radieux, doré, opulent, saturé de lumière. Après l'insurrection de la Morée, en 1770, des familles grecques se réfugièrent à la Floride. Elles se purent croire encore dans ce climat de l'Ionie, qui semble s'être amolli avec les passions des hommes. À Smyrne, le soir, la nature dort comme une courtisane fatiguée d'amour. À notre droite étaient des ruines, appartenant aux grandes fortifications trouvées sur l'Ohio, à notre gauche, un ancien camp de sauvages. L'île où nous étions, arrêtée dans l'onde et reproduite par un mirage, balançait devant nous sa double perspective. À l'Orient, la lune reposait sur des collines lointaines. À l'Occident, la voûte du ciel était fondue en une mer de diamants et de saphirs, dans laquelle le soleil, à demi plongé, paraissait se dissoudre. Les animaux de la création veillaient. La terre, en adoration, semblait encenser le ciel, et l'ambre exhalée de son sein retombait sur elle en rosée, comme la prière redescend sur celui qui prie. Quittée de mes compagnes, je me reposais au bord d'un massif d'arbres. Son obscurité glacée de lumière formait la pénombre où j'étais assis. Des mouches luisantes brillaient parmi les arbrisseaux encrépés et s'éclipsaient lorsqu'elles passaient dans les irradiations de la lune. On entendait le bruit du flux et reflux du lac, les sauts du poisson d'or et le cri rare de la canne plongeuse. Mes yeux étaient fixés sur les eaux. Je déclinais peu à peu vers cette somnolence connue des hommes qui courent les chemins du monde. Nul souvenir distinct ne me restait. Je me sentais vivre et végéter avec la nature dans une espèce de panthéisme. Je m'adossais contre le tronc d'un magnolia et je m'endormis. Mon repos flottait sur un fond vague d'espérance. Quand je sortis de ce léthé, je me trouvai entre deux femmes. Les odalisques étaient revenues. Elles n'avaient pas voulu me réveiller, elles s'étaient assises en silence à mes côtés. Soit qu'elles feignissent le sommeil, soit qu'elles fussent réellement assoupies, leur tête était tombée sur mes épaules. Une brise traversa le bocage et nous inonda d'une pluie de roses de magnolia. Alors la plus jeune des Séminoles se mit à chanter. « Quiconque n'est pas sûr de sa vie se garde de l'exposer ainsi jamais. On ne peut savoir ce que c'est que la passion infiltrée avec la mélodie dans le sein d'un homme. » À cette voix, une voix rude et jalouse répondait. Un bois brûlé appelait les deux cousines. Elles tressaillirent, se levèrent, l'aube commençait à poindre. Aspasie de moi, j'ai retrouvé cette scène au rivage de la Grèce. Montée aux colonnes du Parthénon avec l'aurore, j'ai vu le Citéron, le mont Hymette, l'acropolis de Corinthe, les tombeaux, les ruines, baignées dans une rosée de lumière dorée, transparente, volage, que réfléchissaient les mers, que répandaient comme un parfum les zéphyrs de Salamine et de Délos. Nous achevâmes, au rivage, notre navigation sans parole. À midi, le camp fut levé pour examiner des chevaux que les criques voulaient vendre et les trafiquants acheter. Femmes et enfants, tous étaient convoqués comme témoins, selon la coutume, dans les marchés solennels. Les étalons de tous les âges et de tous les poils Les poulains et les juments avec des taureaux, des vaches et des génisses commencèrent à fuir et à galoper autour de nous. Dans cette confusion, je fus séparé des criques. Un groupe épais de chevaux et d'hommes s'agglomera à l'orée d'un bois. Tout à coup, j'aperçois de loin mes deux Floridiennes. Des mains vigoureuses les asseyaient sur les croupes de deux barbes que montaient à cru un bois brûlé et un siminole. Oh, Cid, que n'avais-je ta rapide babietza pour les rejoindre ? Les cavales prennent leur course, l'immense escadron les suit. Les chevaux ruent, sautent, bondissent, hennissent au milieu des cornes des buffles et des taureaux. Leurs sols se choquent en l'air, leurs queues et leurs crinières volent sanglantes. Un tourbillon d'insectes dévorants enveloppe l'orbe de cette cavalerie sauvage. Mes Floridiennes disparaissent comme les filles de Cérès, enlevées par le dieu des enfers. Voilà comme tout avorte dans mon histoire, comme il ne me reste que des images de ce qui a passé si vite. Je descendrai aux Champs-Élysées avec plus d'ombre comme n'en a jamais emmené avec soi. La faute en est à mon organisation. Je ne sais profiter d'aucune fortune. Je ne m'intéresse à quoi que ce soit de ce qui intéresse les autres. Or, en religion, je n'ai aucune croyance. Pasteur ou roi, qu'aurais-je fait de mon sceptre ou de ma houlette ? Je me serais également fatigué de la gloire et du génie, du travail et du loisir, de la prospérité et de l'infortune. Tout me lasse, je remorque avec peine mon ennui avec mes jours, et je vais partout, bâillant ma vie. 5. Quelles étaient les demoiselles Muscogulges ? Arrestation du roi à Varennes, j'interromps mon voyage pour repasser en Europe. Ronsard nous peint Marie Stuart prête à partir pour l'Écosse après la mort de François II. De tel habit, vous estiez accoustré, partant hélas de la belle contrée, dont aviez eu le sceptre dans la main, lorsque pensive et baignant votre sein, du beau cristal de vos larmes roulées, triste, marchiez par les longues allées du grand jardin de ce royal château qui prend son nom de la source d'une eau. Ressemblais-je à Marie Stuart se promenant à Fontainebleau, quand je me promenais dans ma savane, après mon veuvage. Ce qu'il y a de certain, c'est que mon esprit, sinon ma personne, était enveloppé d'un crêpe long, subtil et délié, comme dit encore Ronsard, ancien poète de la nouvelle école. Le diable ayant emporté les demoiselles Muscogulges, j'appris du guide qu'un bois brûlé, amoureux d'une des deux femmes, avait été jaloux de moi, et qu'il s'était résolu, avec un siminole, frère de l'autre cousine, de m'enlever Atala et Celuta. Les guides les appelaient, sans façon, des filles peintes, ce qui choquait ma vanité. Je me sentais d'autant plus humilié que le bois brûlé, mon rival préféré, était un maringouin maigre, laid et noir, ayant tous les caractères des insectes qui, selon la définition des entomologistes du grand lama, sont des animaux dont la chair est à l'intérieur et les os à l'extérieur. La solitude me parut vide après ma mésaventure. Je reçus mal ma sylphide, généreusement accourue pour consoler un infidèle, comme Julie lorsqu'elle pardonnait à Saint-Preux ses Floridiennes de Paris. Je me hâtais de quitter le désert où j'ai ranimé depuis les compagnes endormies de ma nuit. Je ne sais si je leur ai rendu la vie qu'elles me donnèrent. Du moins, j'ai fait de l'une une vierge et de l'autre une chaste épouse par expiation. Nous repassâmes les montagnes bleues et nous rapprochâmes des défrichements européens vers Chillicothe. Je n'avais recueilli aucune lumière sur le but principal de mon entreprise, mais j'étais escortée d'un monde de poésie. Comme une jeune abeille aux roses engagées, ma muse revenait de son butin chargé. J'avisais au bord d'un ruisseau une maison américaine, ferme à l'un de ses pignons, moulin à l'autre. J'entrai, demandai le vivre et le couvert, et fus bien reçu. Mon hôtesse me conduisit par une échelle dans une chambre au-dessus de l'axe de la machine hydraulique. Ma petite croisée, festonnée de lierre et de cobé à cloche d'iris, ouvrait sur le ruisseau qui coulait, étroit et solitaire, entre deux épaisses bordures de saules, d'aulnes, de sassafras, de tamarins et de peupliers de la Caroline. La roue moussue tournait sous ses ombrages, en laissant retomber de longs rubans d'eau. Des perches et des truites sautaient dans l'écume du remous. Des bergeronnettes volaient d'une rive à l'autre, et des espèces de martins-pêcheurs agitaient au-dessus du courant leurs ailes bleues. N'aurais-je pas bien été là, avec la triste, supposée fidèle, rêvant assis à ses pieds, la tête appuyée sur ses genoux, écoutant le bruit de la cascade, les révolutions de la roue, le roulement de la meule, le sassement du blutoir, les battements égaux du traquet, respirant la fraîcheur de l'onde et l'odeur de l'effleurage des orges perlées. La nuit vint. Je descendis à la chambre de la ferme. Elle n'était éclairée que par des fleurs de maïs et des coques de phaséoles qui flambaient au foyer. Les fusils du maître, horizontalement couchés aux portes-armes, brillaient au reflet de l'âtre. Je m'assis sur un escabeau dans le coin de la cheminée, auprès d'un écureuil qui sautait alternativement du dos d'un gros chien sur la tablette d'un rouet. Un petit chat prit possession de mon genou pour regarder ce jeu. La meunière coiffa le brasier d'une large marmite dont la flamme embrassa le fond noir comme une couronne d'or radiée. Tandis que les patates de mon souper ébouillaient sous ma garde, je m'amusais à lire à la lueur du feu, en baissant la tête, un journal anglais tombé à terre entre mes jambes. J'aperçus, écrit en grosses lettres, ces mots « Flight of the King »,« Fuite du roi ». C'était le récit de l'évasion de Louis XVI et de l'arrestation de l'infortuné monarque à Varennes. Le journal racontait aussi les progrès de l'émigration et la réunion des officiers de l'armée sous le drapeau des princes français. Une conversion subite s'opéra dans mon esprit. Renaud vit sa faiblesse au miroir de l'honneur dans les jardins d'Armide. Sans être le héros du Tasse, la même glace m'offrit mon image au milieu d'un verger américain. Le fracas des armes, le tumulte du monde retentit à mon oreille sous le chaume d'un moulin caché dans des bois inconnus. J'interrompis brusquement ma course et je me dis « Retourne en France ». Ainsi, ce qui me parut un devoir renversa mes premiers desseins, amena la première de ces péripéties dont ma carrière a été marquée. Les Bourbons n'avaient pas besoin qu'un cadet de Bretagne revint d'outre-mer leur offrir son obscur dévouement, pas plus qu'ils n'ont eu besoin de ses services quand il est sorti de son obscurité. Si, continuant mon voyage, j'eusse allumé ma pipe avec le journal qui a changé ma vie, personne ne se fût aperçu de mon absence. Ma vie était alors aussi ignorée et ne pesait pas plus que la fumée de mon calumet. Un simple démêlé entre moi et ma conscience me jeta sur le théâtre du monde. J'eusse pu faire ce que j'aurais voulu, puisque j'étais seul témoin du débat. Mais de tous les témoins, c'est celui aux yeux duquel je craindrais le plus de rougir. Pourquoi les solitudes de l'Érié, de l'Ontario, se présentent-elles aujourd'hui à ma pensée avec un charme que n'a point à ma mémoire le brillant spectacle du Bosphore? C'est qu'à l'époque de mon voyage aux États-Unis, j'étais plein d'illusions. Les troubles de la France commençaient en même temps que commençait mon existence. Rien n'était achevé en moi, ni dans mon pays. Ces jours me sont doux parce qu'ils me rappellent l'innocence des sentiments inspirés par la famille et les plaisirs de la jeunesse. 15 ans plus tard, après mon voyage au Levant, la République, grossie de débris et de larmes, s'était déchargée comme un torrent du déluge dans le despotisme. Je ne me berçais plus de chimères, mes souvenirs prenant désormais leur source dans la société et dans des passions étaient sans candeur. Déçu dans mes deux pèlerinages, en Occident et en Orient, je n'avais point découvert le passage au pôle, je n'avais point enlevé la gloire des bords du Niagara où je l'étais allé chercher, et je l'avais laissée assise sur les ruines d'Athènes. Parti pour être voyageur en Amérique, revenu pour être soldat en Europe, je ne fournis jusqu'au bout ni l'une ni l'autre de ces carrières. Un mauvais génie m'arracha le bâton et l'épée et me mit la plume à la main. Il y a de cette heure 15 autres années qu'étant à Sparte et contemplant le ciel pendant la nuit, je me souvenais des pays qui avaient déjà vu mon sommeil paisible ou troublé, parmi les bois de l'Allemagne, dans les bruyères de l'Angleterre, dans les champs de l'Italie, au milieu des mers, dans les forêts canadiennes, j'avais déjà salué les mêmes étoiles que je voyais briller sur la patrie d'Hélène et de Ménélas. Mais que me servait de me plaindre aux astres immobile témoin de mes destinées vagabondes. Un jour, leur regard ne se fatiguera plus à me poursuivre. Maintenant, indifférent à mon sort, je ne demanderai pas à ces astres de l'incliner par une plus douce influence, ni de me rendre ce que le voyageur laisse de sa vie dans les lieux où il passe. Si je revoyais aujourd'hui les États-Unis, je ne les reconnaîtrais plus. Là où j'ai laissé des forêts, je trouverais des champs cultivés. Là où je me suis frayé un sentier à travers les halliers, je voyagerais sur de grandes routes. Au Natchez, au lieu de la hutte de Selouta, s'élève une ville d'environ 5000 habitants. Chaque tasse pourrait être aujourd'hui députée au Congrès. J'ai reçu dernièrement une brochure imprimée chez les Cherokees, laquelle m'est adressée dans l'intérêt de ces sauvages, comme aux défenseurs de la liberté de la presse. Il y a chez les Muscogulges, les Séminoles, les Chicasas, une cité d'Athènes, une autre de Marathon, une autre de Carthage, une autre de Memphis, une autre de Sparte, une autre de Florence. On trouve un comté de la Colombie et un comté de Marengo. La gloire de tous les pays a placé un nom dans ces mêmes déserts où j'ai rencontré le père Aubry et l'obscur Atala. Le Kentucky montre un Versailles, un territoire appelé Bourbon a pour capitale un Paris. Tous les exilés, tous les opprimés qui se sont retirés en Amérique y ont porté la mémoire de leur patrie. Falsi simoentis ad undam, libabat cineri andromache. Les États-Unis offrent dans leur sein, sous la protection de la liberté, une image et un souvenir de la plupart des lieux célèbres de l'Antiquité et de la moderne Europe. Dans son jardin de la campagne de Rome, Adrien avait fait répéter les monuments de son empire. 33 grandes routes sortent de Washington, comme autrefois les voies romaines partaient du Capitole. Elles aboutissent, en se ramifiant, à la circonférence des États-Unis et tracent une circulation de 25,747 miles. Sur un grand nombre de ces routes, les postes sont montés. On prend la diligence pour l'Ohio ou pour Niagara, comme de mon temps on prenait un guide ou un interprète indien. Ces moyens de transport sont doubles. Des lacs et des rivières existent partout, liés ensemble par des canaux. On peut voyager le long des chemins de terre sur des chaloupes à rames et à voile, ou sur des coches d'eau, ou sur des bateaux à vapeur. Le combustible est inépuisable puisque des forêts immenses couvrent des mines de charbon à fleurs de terre. La population des États-Unis s'est accrue de 10 ans en 10 ans, depuis 1790 jusqu'en 1820, dans la proportion de 35 individus sur 100. On présume qu'en 1830, elle sera de 12 875 000 âmes. En continuant à doubler tous les 25 ans, elle serait en 1855 de 25 750 000 âmes. Et 25 ans plus tard, en 1880, elle dépasserait 50 millions. Cette sève humaine fait fleurir de toutes parts le désert. Les lacs du Canada, naguère sans voile, ressemblent aujourd'hui à des docks où des frégates, des corvettes, des cutters, des barques se croisent avec les pirogues et les canots indiens, comme les gros navires et les galères se mêlent aux pinques, aux chaloupes et aux caïques dans les eaux de Constantinople. Le Mississippi, le Missouri, l'Ohio ne coulent plus dans la solitude, des trois mâts les remontent, plus de 200 bateaux à vapeur en vivifient les rivages. Cette immense navigation intérieure, qui suffirait seule à la prospérité des États-Unis, ne ralentit point leurs expéditions lointaines. Leurs vaisseaux courent toutes les mers, se livrent à toutes les espèces d'entreprises, promènent le pavillon étoilé du couchant le long de ces rivages de l'aurore qui n'ont jamais connu que la servitude. Pour achever ce tableau surprenant, il se faut représenter des villes comme Boston, New York, Philadelphie, Baltimore, Charleston, Savannah, la Nouvelle-Orléans, éclairée la nuit, remplie de chevaux et de voitures, ornée de cafés, de musées, de bibliothèques, de salles de danse et de spectacles, offrant toutes les jouissances du luxe. Toutefois, il ne faut pas chercher aux États-Unis ce qui distingue l'homme des autres êtres de la création, ce qui est son extrait d'immortalité et l'ornement de ses jours. Les lettres sont inconnues dans la Nouvelle République, quoiqu'elles soient appelées par une foule d'établissements. L'Américain a remplacé les opérations intellectuelles par les opérations positives. Ne lui imputez point à infériorité sa médiocrité dans les arts, car ce n'est pas de ce côté qu'il a porté son attention. Jeté par différentes causes sur un sol désert, l'agriculture et le commerce ont été l'objet de ses soins. Avant de penser, il faut vivre. Avant de planter des arbres, il faut les abattre afin de labourer. Les colons primitifs, l'esprit rempli de controverses religieuses, portaient, il est vrai, la passion de la dispute jusqu'au sein des forêts. Mais il fallait qu'ils marchassent d'abord à la conquête du désert, la hache sur l'épaule, n'ayant pour pupitre, dans l'intervalle de leur labeur, que l'orme qu'ils écarissaient. Les Américains n'ont point parcouru les degrés de l'âge des peuples. Ils ont laissé en Europe leur enfance et leur jeunesse. Les paroles naïves du berceau leur ont été inconnues. Ils n'ont joui des douceurs du foyer qu'à travers le regret d'une patrie qu'ils n'avaient jamais vue, dont ils pleuraient l'éternelle absence et le charme qu'on leur avait raconté. Il n'y a dans le nouveau continent ni littérature classique, ni littérature romantique, ni littérature indienne. Classique, les Américains n'ont point de modèle. Romantique, les Américains n'ont point de Moyen-Âge. Indienne, les Américains méprisent les sauvages et ont horreur des bois comme d'une prison qui leur était destinée. Ainsi, ce n'est donc pas la littérature à part, la littérature proprement dite, que l'on trouve en Amérique. C'est la littérature appliquée, servant aux divers usages de la société. C'est la littérature d'ouvriers, de négociants, de marins, de laboureurs. Les Américains ne réussissent guère que dans la mécanique et dans les sciences, parce que les sciences ont un côté matériel. Franklin et Fulton se sont emparés de la foudre et de la vapeur au profit des hommes. Il appartenait à l'Amérique de doter le monde de la découverte par laquelle aucun continent ne pourra désormais échapper aux recherches du navigateur. La poésie et l'imagination partagent d'un très petit nombre de désœuvrés, sont regardés aux États-Unis comme des puérilités du premier et du dernier âge de la vie. Les Américains n'ont point eu d'enfance, ils n'ont point encore de vieillesse. De ceci, il résulte que les hommes engagés dans les études sérieuses ont dû nécessairement appartenir aux affaires de leur pays afin d'en acquérir la connaissance et qu'ils ont dû de même se trouver acteurs dans leur révolution. Mais une chose triste est à remarquer. La dégénération prompte du talent, depuis les premiers hommes des troubles américains jusqu'aux hommes de ces derniers temps. Et cependant, ces hommes se touchent. Les anciens présidents de la République ont un caractère religieux, simple, élevé, calme, dont on ne trouve aucune trace dans nos fracas sanglants de la République et de l'Empire. La solitude dont les Américains étaient environnés a réagi sur leur nature. Ils ont accompli en silence leur liberté. Le discours d'adieu du général Washington au peuple des États-Unis pourrait avoir été prononcé par les personnages les plus graves de l'Antiquité. Les actes publics, dit le général, prouvent jusqu'à quel point les principes que je viens de rappeler m'ont guidé lorsque je me suis acquitté des devoirs de ma place. Ma conscience me dit du moins que je les ai suivis, bien qu'en repassant les actes de mon administration, je n'ai connaissance d'aucune faute d'intention. J'ai un sentiment trop profond de mes défauts pour ne pas penser que probablement j'ai commis beaucoup de fautes. Quelles qu'elles soient, je supplie avec ferveur le Tout-Puissant d'écarter ou de dissiper les maux qu'elle pourrait entraîner. J'emporterai aussi avec moi l'espoir que mon pays ne cessera jamais de les considérer avec indulgence, et qu'après 45 années de ma vie dévouée à son service avec zèle et droiture, les torts d'un mérite insuffisant tomberont dans l'oubli, comme je tomberai bientôt moi-même dans la demeure du repos. Jefferson, dans son habitation de Monticello, écrit après la mort de l'un de ses deux enfants « La perte que j'ai éprouvée est réellement grande. D'autres peuvent perdre ce qu'ils ont en abondance, mais moi, de mon strict nécessaire, j'ai à déplorer la moitié. Le déclin de mes jours ne tient plus que par le faible fil d'une vie humaine. Peut-être suis-je destiné à voir rompre ce dernier lien de l'affection d'un père. La philosophie, rarement touchante, l'est ici au souverain degré, et ce n'est pas là la douleur oiseuse d'un homme qui se n'était mêlé de rien. Jefferson mourut le 4 juillet 1826, dans la 84e année de son âge, et la 54e de l'indépendance de son pays. Ses restes reposent, recouverts d'une pierre, n'ayant pour épitaphe que ces mots « Thomas Jefferson, auteur de la Déclaration d'indépendance ». Périclès et Démosthène avaient prononcé l'oraison funèbre des jeunes Grecs tombés pour un peuple qui disparut bientôt après eux. Breckinridge, en 1817, célébrait la mort des jeunes Américains dont le sang a fait naître un peuple. On a une galerie nationale des portraits des Américains distingués en 4 volumes in octavo et, ce qu'il y a de plus singulier, une biographie contenant la vie de plus de 100 principaux chefs indiens. Logan, chef de la Virginie, prononça devant Lord Denmore ces paroles. Au printemps dernier, sans provocation aucune, le colonel Craps égorgea tous les parents de Logan. Il ne coule plus une seule goutte de mon sang dans les veines d'aucune créature vivante. C'est là ce qui m'a appelé à la vengeance. Je l'ai cherché. J'ai tué beaucoup de monde. Est-il quelqu'un qui viendra maintenant pleurer la mort de Logan ? Personne. Sans aimer la nature, les Américains se sont appliqués à l'étude de l'histoire naturelle. Townsend, parti de Philadelphie, a parcouru à pied les régions qui séparent l'Atlantique de l'océan Pacifique en consignant dans son journal ses nombreuses observations. Thomas Say, voyageur dans les Florides et aux montagnes rocheuses, a donné un ouvrage sur l'entomologie américaine. Wilson, tisserand, devenu auteur, a des peintures assez finies. Arrivés à la littérature proprement dite, quoiqu'elle soit peu de chose, il y a pourtant quelques écrivains à citer parmi les romanciers et les poètes. Le fils d'un quaker, Brown, est l'auteur de Wieland, lequel Wieland est la source et le modèle des romans de la nouvelle école. Contrairement à ses compatriotes, j'aime mieux, assurait Brown, errer parmi les forêts que de battre le blé. Wieland, le héros du roman, est un puritain à qui le ciel a commandé de tuer sa femme. « Je t'ai amené ici, lui dit-il, pour accomplir les ordres de Dieu. C'est par moi que tu dois périr. » Et je saisis ses deux bras. Elle poussa plusieurs cris perçants et voulut se dégager. « Wieland, ne suis-je pas ta femme? Et tu veux me tuer? Me tuer, moi? Oh non, oh, grâce, grâce !» Tant que sa voix eut un passage, elle cria ainsi grâce et secours. Wieland étrangle sa femme et éprouve d'ineffables délices auprès du cadavre expiré. L'horreur de nos inventions modernes est ici surpassée. Brown s'était formé à la lecture de Caleb Williams et il imitait dans Wieland une scène d'Othello. À cette heure, les romanciers américains, Cooper, Washington Irving, sont forcés de se réfugier en Europe pour y trouver des chroniques et un public. La langue des grands écrivains de l'Angleterre s'est créolisée, provincialisée, barbarisée, sans avoir rien gagné en énergie au milieu de la nature vierge. On a été obligé de dresser des catalogues des expressions américaines. Quant aux poètes américains, leur langage a de l'agrément, mais ils s'élèvent peu au-dessus de l'ordre commun. Cependant, l'ode à la brise du soir, le lever du soleil sur la montagne, le torrent et quelques autres poésies méritent d'être parcourues. Halleck a chanté Botzaris expirant, et George Hill a erré parmi les ruines de la Grèce. « Ô Athènes, dit-il, c'est donc toi, reine solitaire, reine détrônée. Parthénon, roi des temples, tu as vu les monuments, tes contemporains, laisser au temps dérober leurs prêtres et leurs dieux. Il me plaît, à moi, voyageur aux rivages de l'Hellénie et de l'Atlantide, d'entendre la voix indépendante d'une terre inconnue à l'Antiquité, gémir sur la liberté perdue du vieux monde. » Chapitre 6. Danger pour les États-Unis. Mais l'Amérique conservera-t-elle la forme de son gouvernement? Les États ne se diviseront-ils pas? Un député de la Virginie n'a-t-il pas déjà soutenu la thèse de la liberté antique avec des esclaves, résultat du paganisme, contre un député du Massachusetts, défendant la cause de la liberté moderne sans esclaves, telle que le christianisme l'a faite? Les États du Nord et du Midi ne sont-ils pas opposés d'esprit et d'intérêt? Les États de l'Ouest, trop éloignés de l'Atlantique, ne voudront-ils pas avoir un régime à part? D'un côté, le lien fédéral est-il assez fort pour maintenir l'union et contraindre chaque État à s'y resserrer. D'un autre côté, si l'on augmente le pouvoir de la présidence, le despotisme n'arrivera-t-il pas avec les gardes et les privilèges du dictateur ? L'isolement des États-Unis leur a permis de naître et de grandir. Il est douteux qu'ils eussent pu vivre et croître en Europe. La Suisse fédérale subsiste au milieu de nous. Pourquoi ? Parce qu'elle est petite, pauvre, cantonnée au giron des montagnes, pépinière de soldats pour les rois, but de promenade pour les voyageurs. Séparée de l'ancien monde, la population des États-Unis habite encore la solitude. Ses déserts ont été sa liberté. Mais déjà, les conditions de son existence s'altèrent. L'existence des démocraties du Mexique, de la Colombie, du Pérou, du Chili, de Buenos Aires, toutes troublées qu'elles sont, est un danger. Lorsque les États-Unis n'avaient auprès d'eux que les colonies d'un royaume transatlantique, aucune guerre sérieuse n'était probable. Maintenant, des rivalités ne sont-elles pas à craindre ? Que de part et d'autre, on court aux armes, que l'esprit militaire s'empare des enfants de Washington. Un grand capitaine pourra surgir au trône. La gloire aime les couronnes. J'ai dit que les États du Nord, du Midi et de l'Ouest étaient divisés d'intérêts. Chacun le sait. Ces États rompant l'union, les réduira-t-on par les armes ? Alors, quel ferment d'inimitié répandu dans le corps social ? Les États dissidents maintiendront-ils leur indépendance ? Alors, quelles discordes n'éclateront-elles pas parmi ces États émancipés ? Ces républiques d'outre-mer, désengrenées, ne formeraient plus que des unités débiles de nul poids dans la balance sociale, où elles seraient successivement subjuguées par l'une d'entre elles. Je laisse de côté le grave sujet des alliances et des interventions étrangères. Le Kentucky, peuplé d'une race d'hommes plus rustiques, plus hardis et plus militaires, semblerait destiné à devenir l'État conquérant. Dans cet État qui dévorerait les autres, le pouvoir d'un seul ne tarderait pas à s'élever sur la ruine du pouvoir de tous. J'ai parlé du danger de la guerre, je dois rappeler les dangers d'une longue paix. Les États-Unis, depuis leur émancipation, ont joui à quelques mois près de la tranquillité la plus profonde, tandis que sans bataille ébranlait l'Europe, ils cultivaient leur champ en sûreté. De là un débordement de population et de richesses, avec tous les inconvénients de la surabondance des richesses et des populations. Si des hostilités survenaient chez un peuple imbelle, saurait-on résister ? Les fortunes et les mœurs consentiraient-elles à des sacrifices ? Comment renoncer aux usances câlines, au confort, au bien-être indolent de la vie ? La Chine et l'Inde, endormies dans leur mousseline, ont constamment subi la domination étrangère. Ce qui convient à la complexion d'une société libre, c'est un état de paix modéré par la guerre et un état de guerre attrempé de paix. Les Américains ont déjà porté trop longtemps de suite la couronne d'olivier. L'arbre qui la fournit n'est pas naturel à leurs rives. L'esprit mercantile commence à les envahir. L'intérêt devient chez eux le vice national. Déjà, le jeu des banques des divers États s'entrave et des banqueroutes menacent la fortune commune. Tant que la liberté produit de l'or, une république industrielle fait des prodiges. Mais quand l'or est acquis ou épuisé, elle perd son amour de l'indépendance, non fondé sur un sentiment moral, mais provenu de la soif du gain et de la passion de l'industrie. De plus, il est difficile de créer une patrie parmi des États qui n'ont aucune communauté de religion et d'intérêt, qui, sortis de diverses sources en des temps divers, vivent sur un sol différent et sous un différent soleil. Quel rapport y a-t-il entre un Français de la Louisiane, un Espagnol des Florides, un Allemand de New York, un Anglais de la Nouvelle-Angleterre, de la Virginie, de la Caroline, de la Géorgie, tous réputés américains ? Celui-là léger et duelliste, celui-là catholique, paresseux et superbe, celui-là luthérien, laboureur et sans esclaves, celui-là anglican et planteur avec des nègres, celui-là puritain et négociant. Combien faudra-t-il de siècles pour rendre ces éléments homogènes ? Une aristocratie chrysogène est prête à paraître avec l'amour des distinctions et la passion des titres. On se figure qu'il règne à niveau général aux États-Unis. C'est une complète erreur. Il y a des sociétés qui se dédaignent et ne se voient point entre elles. Il y a des salons où la morgue des maîtres surpasse celle d'un prince allemand à 16 quartiers. ces nobles plébéiens aspirent à la caste, en dépit du progrès des Lumières qui les a faits égaux et libres. Quelques-uns d'entre eux ne parlent que de leurs aïeux, fiers barons, apparemment bâtards et compagnons de Guillaume le bâtard. Ils étalent les blasons de chevalerie de l'ancien monde, ornés des serpents, des lézards et des perruches du monde nouveau. Un cadet de Gascogne, abordant avec la cape et le parapluie au rivage républicain, s'il a soin de se surnommer marquis, est considéré sur les bateaux à vapeur. L'énorme inégalité des fortunes menace encore plus sérieusement de tuer l'esprit d'égalité. Tel Américain possède 1 ou 2 millions de revenus. Aussi les Yankees de la grande société ne peuvent-ils déjà plus vivre comme Franklin. Le vrai gentleman, dégoûté de son pays neuf, vient en Europe chercher du vieux. On le rencontre dans les auberges, faisant comme les Anglais, avec l'extravagance ou le spleen, des tours en Italie. Ces rôdeurs de la Caroline ou de la Virginie achètent des ruines d'abbayes en France et plantent à Melun des jardins anglais avec des arbres américains. Naples envoie à New York ses chanteurs et ses parfumeurs, Paris ses modes et ses baladins, Londres ses grooms et ses boxeurs. Joies exotiques qui ne rendent pas l'union plus gaie. On s'y divertit en se jetant dans la cataracte de Niagara, aux applaudissements de 50 000 planteurs, demi-sauvages que la mort a bien de la peine à faire rire. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'en même temps que déborde l'inégalité des fortunes et qu'une aristocratie commence, la grande impulsion égalitaire au dehors oblige les possesseurs industriels ou fonciers à cacher leur luxe, à dissimuler leur richesse, de crainte d'être assommés par leurs voisins. On ne reconnaît point la puissance exécutive. On chasse à volonté les autorités locales que l'on a choisies et l'on leur substitue des autorités nouvelles. Cela ne trouble point l'ordre. La démocratie pratique est observée et l'on se rit des lois posées par la même démocratie en théorie. L'esprit de famille existe peu. Aussitôt que l'enfant est en état de travailler, il faut, comme l'oiseau emplumé, qu'il vole de ses propres ailes. De ces générations émancipées dans un hâtif orphelinage et des émigrations qui arrivent de l'Europe, il se forme des compagnies nomades qui défrichent les terres, creusent des canaux et portent leur industrie partout, sans s'attacher au sol. Elles commencent des maisons dans le désert où le propriétaire passager restera à peine quelques jours. Un égoïsme froid et dur règne dans les villes. Piastres et dollars, billets de banque et argent, hausse et baisse des fonds, c'est tout l'entretien. On se croirait à la bourse ou au comptoir d'une grande boutique. Les journaux, d'une dimension immense, sont remplis d'expositions d'affaires ou de caquets grossiers. Les Américains subiraient-ils, sans le savoir, la loi d'un climat où la nature végétale paraît avoir profité aux dépens de la nature vivante? Loi combattue par des esprits distingués, mais non pas tout à fait mise hors d'examen par la réfutation même. On pourrait s'enquérir si l'Américain n'a pas été trop tôt usé dans la liberté philosophique, comme le Russe dans le despotisme civilisé. En somme, les États-Unis donnent l'idée d'une colonie et non d'une patrie mère. Ils n'ont point de passé. Les mœurs s'y sont faites par les lois. Ces citoyens du Nouveau Monde ont pris rang parmi les nations au moment que les idées politiques entraient dans une phase ascendante. Cela explique pourquoi ils se transforment avec une rapidité extraordinaire. La société permanente semble devenir impraticable chez eux, d'un côté par l'extrême ennui des individus, de l'autre par l'impossibilité de rester en place et par la nécessité de mouvement qui les domine. Car on n'est jamais bien fixé là où les pénates sont errants. Placés sur la route des océans, à la tête des opinions progressives aussi neuves que son pays, l'Américain semble avoir reçu de Colomb plutôt la mission de découvrir d'autres univers que de les créer. Chapitre 7. Londres, d'avril à septembre 1822. Retour en Europe. Naufrage. Revenu du désert à Philadelphie, comme je l'ai déjà dit, et ayant écrit sur le chemin à la hâte ce que je viens de raconter, comme le vieillard de La Fontaine, je ne trouvai point les lettres de change que j'attendais. Ce fut le commencement des embarras pécuniaires où j'ai été plongé le reste de ma vie. La fortune et moi, nous nous sommes pris en grippe aussitôt que nous nous sommes vus. Selon Hérodote, certaines fourmis de l'Inde ramassaient des tas d'or. D'après Athénée, le soleil avait donné à Hercule un vaisseau d'or pour aborder à l'île d'Érythia, retraite des Hespérides. Bien que fourmi, je n'ai pas l'honneur d'appartenir à la grande famille indienne. Et bien que navigateur, je n'ai jamais traversé l'eau que dans une barque de sapin. Ce fut un bâtiment de cette espèce qui me ramena d'Amérique en Europe. Le capitaine me donna mon passage à crédit. Le 10 de décembre 1791, je m'embarquai avec plusieurs de mes compatriotes qui, par divers motifs, retournaient comme moi en France. La désignation du navire était le Havre. Un coup de vent d'ouest nous prit au débouqué de la Delaware et nous chassa en 17 jours à l'autre bord de l'Atlantique. Souvent à mât et à corde, à peine pouvions-nous mettre à la cape. Le soleil ne se montra pas une seule fois. Le vaisseau gouvernant à l'estime fuyait devant la lame. Je traversai l'océan au milieu des ombres. Jamais il ne m'avait paru si triste. Moi-même, plus triste, je revenais trompé dès mon premier pas dans la vie. « On ne bâtit point de palais sur la mer, » dit le poète persan Ferit Eddin. J'éprouvai je ne sais quelle pesanteur de cœur comme à l'approche d'une grande infortune. Promenant mes regards sur les flots, je leur demandai ma destinée, où j'écrivais, plus gêné de leurs mouvements qu'occupé de leurs menaces. Loin de calmer, la tempête augmentait à mesure que nous approchions de l'Europe, mais d'un souffle égal. Il résultait de l'uniformité de sa rage une sorte de bonasse furieuse dans le ciel hâve et la mer plombée. Le capitaine, n'ayant pu prendre hauteur, était inquiet. Il montait dans les haubans, regardait les divers points de l'horizon avec une lunette. Une vigie était placée sur le Beaupré, une autre dans le petit hunier du grand mât. La lame devenait courte et la couleur de l'eau changeait, signe des approches de la terre. De quelle terre ? Les matelots bretons ont ce proverbe. Celui qui voit Belle-Île voit son île. Celui qui voit Groix voit sa joie. Celui qui voit Ouessant voit son sang. J'avais passé 2 nuits à me promener sur le Tillac, au glapissement des ondes dans les ténèbres, au bourdonnement du vent dans les cordages et sous les sauts de la mer qui couvrait et découvrait le pont. C'était tout autour de nous une émeute de vagues. Fatigué des chocs et des heurts, à l'entrée de la 3e nuit, je m'allais coucher. Le temps était horrible. Mon hamac craquait et blutait au coup du flot qui, crevant sur le navire, en disloquait la carcasse. Bientôt, j'entends courir d'un bout du pont à l'autre et tomber des paquets de cordages. J'éprouve le mouvement que l'on ressent lorsqu'un vaisseau vire de bord. Le couvercle de l'échelle de l'entrepont s'ouvre. Une voix effrayée appelle le capitaine. Cette voix, au milieu de la nuit et de la tempête, avait quelque chose de formidable. Je prête l'oreille. Il me semble ouïr des marins discutant sur le gisement d'une terre. Je me jette en bas de mon branle. Une vague enfonce le château de poupe, inonde la chambre du capitaine, renverse et roule pêle-mêle, table, lit, coffre, meubles et armes. Je gagne le Tillac à demi noyé. En mettant la tête hors de l'entrepont, je fus frappé d'un spectacle sublime. Le bâtiment avait essayé de virer de bord, mais n'ayant pu y parvenir, il s'était affalé sous le vent. À la lueur de la lune écornée qui émergeait des nuages pour s'y replonger aussitôt, on découvrait sur les deux bords du navire, à travers une brume jaune, des côtes hérissées de rochers. La mer boursouflait ses flots comme des monts dans le canal où nous nous trouvions engouffrés. Tantôt, il s'épanouissait en écumes et en étincelles. Tantôt, il n'offrait qu'une surface huileuse et vitreuse, marbrée de taches noires, cuivrées, verdâtres, selon la couleur des bas-fonds sur lequel il mugissait. Pendant 2 ou 3 minutes, les vagissements de l'abîme et ceux du vent étaient confondus. L'instant d'après, on distinguait le détaler des courants, le sifflement des récifs, la voix de la lame lointaine. De la concavité du bâtiment sortaient des bruits qui faisaient battre le cœur aux plus intrépides matelots. La proue du navire tranchait la masse épaisse des vagues avec un froissement affreux, et au gouvernail, des torrents d'eau s'écoulaient en tourbillonnant comme à l'échappée d'une écluse. Au milieu de ce fracas, rien n'était aussi alarmant qu'un certain murmure sourd, pareil à celui d'un vase qui se remplit. Éclairé d'un falot et contenu sous des plombs, des portulans, des cartes, des journaux de route étaient déployés sur une cage à poulets. Dans l'habitacle de la boussole, une rafale avait éteint la lampe. Chacun parlait diversement de la terre. Nous étions entrés dans la Manche sans nous en apercevoir. Le vaisseau, bronchant à chaque vague, courait en dérive entre l'île de Guernesey et celle d'Origny. Le naufrage parut inévitable et les passagers serrèrent ce qu'ils avaient de plus précieux afin de le sauver. Il y avait parmi l'équipage des matelots français. Un d'entre eux, au défaut d'aumônier, entonna ce cantique à Notre-Dame de Bon Secours, premier enseignement de mon enfance. Je le répétais à la vue des côtes de la Bretagne, presque sous les yeux de ma mère. Les matelots américains protestants se joignaient de cœur au chant de leurs camarades français catholiques. Le danger apprend aux hommes leur faiblesse et unit leurs vœux. Passagers et marins, tous étaient sur le pont, qui accrochés aux manœuvres, qui au bordage, qui au cabestan, qui au bec des ancres pour n'être pas balayés de la lame ou versés à la mer par le roulis. Le capitaine criait « une hache » pour couper les mâts, et le gouvernail dont le timon avait été abandonné allait, tournant sur lui-même avec un bruit rauque. Un essai restait à tenter. La sonde ne marquait plus que quatre brasses sur un banc de sable qui traversait le chenal. Il était possible que la lame nous fît franchir le banc et nous portât dans une eau profonde. Mais qui oserait saisir le gouvernail et se charger du salut commun? Un faux coup de barre, nous étions perdus. Un de ces hommes qui jaillissent des événements et qui sont les enfants spontanés du péril se trouva. Un matelot de New York s'empare de la place désertée du pilote. Il me semble encore le voir en chemise, en pantalon de toile, les pieds nus, les cheveux épars et diluviés, tenant le timon dans ses fortes serres, tandis que, la tête tournée, il regardait à la poupe l'ondulée qui devait nous sauver ou nous perdre. Voici venir cette lame embrassant la largeur de la passe, roulant haut sans se briser, ainsi qu'une mer envahissant les flots d'une autre mer. De grands oiseaux blancs, au vol calme, la précèdent comme les oiseaux de la mort. Le navire touchait et talonnait. Il se fit un silence profond. Tous les visages blêmirent. La houle arrive, au moment où elle nous attaque, le matelot donne le coup de barre, le vaisseau, près de tomber sur le flanc, présente l'arrière, et la lame qui paraît nous engloutir nous soulève. On jette la sonde, elle rapporte 27 brasses. Un huzza monte jusqu'au ciel, et nous y joignons le cri de « Vive le roi !» Il ne fut point entendu de Dieu pour Louis XVI. Il ne profita qu'à nous. Dégagés des deux îles, nous ne fûmes pas hors de danger. Nous ne pouvions parvenir à nous élever au-dessus de la côte de Granville. Enfin, la marée retirante nous emporta et nous doublâmes le cap de la Hougue. Je n'éprouvai aucun trouble pendant ce demi-naufrage et ne sentis point de joie d'être sauvé. Mieux vaut déguerpir de la vie quand on est jeune que d'en être chassé par le temps. Le lendemain, nous entrâmes au Havre. Toute la population était accourue pour nous voir. Nos mâts de hune étaient rompus, nos chaloupes emportées, le gaillard d'arrière rasé, et nous embarquions l'eau à chaque tangage. Je descendis à la jetée. Le 2 de janvier 1792, je foulais de nouveau le sol natal qui devait encore fuir sous mes pas. J'amenais avec moi, non des Esquimaux, des régions polaires, mais deux sauvages d'une espèce inconnue, Chactas et Atala.